Bonjour à tous. Alors, je vais commencer dans l'entame de cette prédication. Je ne voudrais pas que vous puissiez voir un jugement ou alors quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais c'est bien, c'est qu'on ait parlé de l'esprit dans l'Église. Et je suis beaucoup interpellé et attristé par bon nombre d'Églises et souvent les comportements de certains dans les églises. Par exemple, alors un exemple tout simple, c'est par exemple ici, on fait venir un orchestre, un batteur, une guitare électrique, tout ce que vous voulez, parce qu'on dit on veut dynamiser la louange, puis résultat des courses, on sort de l'église, on sort du culte, oh, on a passé un bon moment, t'as entendu la musique, c'était génial. Et lorsque le Seigneur parle, personne l'entend. On n'entend plus la parole de Dieu parce qu'on est encore sur ces choses, on est encore sur la musique, on est fixé sur ces choses. Vous avez dans d'autres églises, on a mis en place un système pyramidal, ce qui fait que ce sont les hommes qui commandent l'église, et puis Dieu est invité, Jésus-Christ est invité de temps en temps à parler dans l'église. Il a peut-être de temps en temps l'esprit de temps en temps la liberté d'agir. Et puis, si on est une église qui bouge pas, si on est une église où les gens tombent pas par terre, c'est que c'est pas une église. Parce que on n'entend plus l'Esprit de Dieu parler dans les églises. On a fait entrer les choses du monde dans l'église. On a fait entrer le spectacle. On a fait entrer la gestion, le management du monde dans l'Église. Mais on a oublié que Jésus-Christ est le chef de l'Église. J'aimerais vous amener dans 2 Corinthiens, chapitre 3. On va lire du premier verset jusqu'au verset 6. Et ensuite, on ira chercher un autre verset un petit peu plus loin. 2 Corinthiens, chapitre 3. De 1 à 6. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et quand vous allez plus loin, au verset 15, avant, il y a toute l'explication où Moïse avait couvert son visage parce qu'il ne voulait pas que le peuple fixe son regard sur lui. À partir du verset 15, il est dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Déjà, je voudrais dire que ceux qui sont en Christ sont libres. Il n'y a plus rien qui les lie. Ils sont libres. Alors, Corinthiens, c'est spécial parce que dans la première lettre, Paul est venu une première fois, il a fait plein de recommandations parce qu'il entendait parler de division, il entendait parler d'idolâtrie, donc il a reposé les fondements. Le fondement de son évangile. C'est-à-dire, il parlait de la résurrection, il a parlé de plein de choses. Et ici, Il revient une deuxième fois, il écrit une deuxième lettre parce qu'il a vu que, en fin de compte, l'œuvre des Corinthiens était faite. Il fait allusion dans les premiers commandements à une coutume, et on le fait encore ici d'ailleurs. C'est la coutume, c'était d'envoyer une lettre de recommandation. Vous allez dire, je vous recommande Thiago, parce que c'est quelqu'un de vraiment fort en Christ, et ben, il va venir parler avec vous, je vous le recommande, écoutez-le, il est bon. Je vous recommande José, je vous recommande Bernard, je vous recommande plein. Et ça, on peut le voir en Actes 18-27, on va peut-être aller souvent dans la parole, Actes 18-27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Voilà la lettre de recommandation. Ils écrivaient qu'en fin de compte, bah, ils faisaient partie de leur église et c'était bon de l'écouter. Il faut conserver cette habitude parce que bah, ça prouve également qu'on respecte l'église où on envoie cette personne. On ne va pas en envoyer quelqu'un qui n'est pas fort en Christ, parce que ça prouve qu'on n'a aucune condescendance. Et ça prouve surtout qu'on s'en fiche de souiller la table de Dieu, le partage du pain et du vin. Mais quand on envoie quelqu'un qui est vraiment en Christ, qui est recommandé par une église, c'est quelque chose de puissant. Et bien sûr, ici, l'apôtre ne se recommande absolument pas lui-même. Il ne dit pas, ben voilà, je suis venu parce que je suis bon, parce que... Non, 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 non. Il est en train d'expliquer que dans les Corinthiens, il y avait le résultat de son travail et qu'il n'avait pas besoin de l'aide de recommandation, qu'en fin de compte, déjà, il les reconnaissait comme ses enfants. Et ça, on peut lire ça en 2 Corinthiens, chapitre 6. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 13, ne prenez pas. « Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez aussi votre cœur. » Vous voyez, il avait fait son œuvre, l'Évangile avait fait son œuvre, il leur avait parlé de Dieu, et la parole était entrée. Il n'y avait pas tous les tralala qu'ajoutent certaines églises. C'était la parole de Dieu directement dans le cœur des Corinthiens, qui avait fait son œuvre. Également, Paul ne demande pas aux Corinthiens de devenir la lettre. Il ne dit pas « devenez la lettre de Christ ». Il leur dit « vous êtes la lettre de Christ ». Il leur avait déjà dit avant, en 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 2, « vous êtes le sceau de mon apostolat », c'est-à-dire l'image, c'est-à-dire l'image sur laquelle est apposé le nom de Jésus-Christ et que je transporte partout et que je montre partout. Tous ceux qui n'avaient pas vu Paul pouvaient certainement douter de ce qu'était Paul, ça c'est clair. Par exemple, si vous voyez quelqu'un de nouveau arriver dans l'église qui commence à venir au micro et parler, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce que son témoignage est bon? Tous ceux qui étaient à ce moment-là, qui étaient nouveaux dans l'église de Corinthe, effectivement, ils pouvaient avoir des doutes. Les seuls qui n'avaient aucun doute, c'est ceux qui avaient été convertis par Paul. Ils étaient eux-mêmes une lettre vivante, la confirmation que Dieu avait fait une œuvre dans leur vie. Et on peut voir ça en 1 Corinthiens. Chapitre 4, verset 15. Je vais lire déjà au verset 14. « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants, vous voyez à nouveau, comme mes enfants bien-aimés, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous est engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Voilà, ici il dit que c'est lui qui a engendré les Corinthiens par l'Évangile et rien d'autre. Ils étaient la preuve vivante de l'œuvre de la parole de Dieu dans leur cœur. Alors, plusieurs questions, quand on reprend 2 Corinthiens chapitre 3, les questions, on les trouve au travers de ce qu'on vient de lire. Qui l'a écrit? Qui a écrit cette lettre? Bien sûr, on sait que c'est Paul. Sur quoi l'a-t-il écrite? Sur quelle tablette? Il l'a écrit sur le cœur des Corinthiens et par extension sur notre cœur, nous qui lisons la parole de Dieu. Et bien sûr, sur tout le cœur des croyants. Quand je dis nous, c'est les croyants. Avec quelle plume et quelle encre? On en a parlé ce matin. C'est avec le Saint-Esprit. Quand la prédication vient de l'homme, il ne va rien rester de cette prédication. Si la prédication vient de l'Esprit, les choses vont bouger automatiquement. C'est ce qui se passait en Paul quand il allait voir les Corinthiens. Son ministère était guidé par l'Esprit. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait était guidé par l'Esprit. Les Corinthiens étaient touchés. Ça a changé des vies. Qui va lire cette lettre? La question, c'est qui? Mais tous les hommes. Tous les hommes d'hier, mais tous les hommes d'aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de plus précieux. Et c'est là où je veux en venir par rapport à tous les tralalas qui sont entrés dans les églises. C'est au travers de la manifestation de Jésus-Christ que représente une église. C'est comme ça. Quand on parle de l'église d'Hasbrook, par exemple, quand on parle de main tendue, on ne dit pas c'est main tendue affiliée à l'église de Paul Craddock. Non, on dit affiliée à l'église évangélique d'Hasbrook, parce qu'elle est connue et reconnue en tant que telle. D'accord? Elle n'est pas affiliée à un homme, elle n'est pas affiliée aux anciens. C'est chacun ici présent qui est l'église d'Hasbrook. Alors vous allez me dire, mais quel est le secret? Et c'est là le sujet de la prédication. Quel est le secret pour que la lettre soit bien visible? Comment on peut voir, je vais vous le dire aujourd'hui, une église vivante? Moi, je vais vous le dire personnellement, mon critère, c'est absolument pas, et bien loin de là, tous les tralala, les gens qui tombent par terre, les gens qui gesticulent sur place, je suis à 10 000 lieues de ces choses-là. Moi, je suis plus sensible à l'Esprit de Dieu qui est au milieu de l'Église. Et comment on voit l'Esprit de Dieu dans une Église? C'est quand l'Esprit commence au moment de l'arrivée dans l'Église, au travers de la présentation, et qu'il y a un fil conducteur. Ça, c'est un premier chose. Vous savez, souvent, on a cette stupéfaction de voir qu'il y a quelque chose qui est dit à la présentation. La même chose s'est répétée pendant les exhortations, et c'est le sujet de la prédication. Si vous me dites que c'est un hasard, moi j'appelle ça un hasard avec un grand D ou un grand E, puisque c'est l'Esprit. La deuxième chose, c'est quand des gens prient la semaine et que par hasard, au travers d'un témoignage, au travers d'une exhortation, d'une prédication, ils ont exactement la réponse qu'ils voulaient. Exactement. Si on faisait l'expérience de à qui est arrivée cette chose dans l'Église, moi je peux vous dire que je suis le premier à lever la main. Voilà comment on juge une église. On ne juge absolument pas une église sur le tralala. Parce que si c'est comme ça, on ne va rien ressentir de l'action de l'esprit. On va tous être attirés par la belle musique, on va tous être attirés qui on va voir tomber, on va tous être attirés par les guérisons, puis 3 jours après on va percevoir que la personne qui s'est dit guérie, elle n'est pas guérie, c'était parce qu'elle était dans l'émotion, parce qu'elle était dans ceci, ça s'est vu, il y a plein de témoignages comme ça. Une vraie église, c'est quand Christ est au milieu. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens. Comment faire pour que cette lettre soit visible. Verset 18, c'est la contemplation. Ici, c'est marqué autrement, mais dans la Darby, je pense que c'est marqué. Alors, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. C'est la contemplation de la gloire du Seigneur qui fait qu'on entre dans une dimension que l'on n'a jamais connue. Et quand je dis contemplation, c'est contemplation de l'Église, mais c'est contemplation individuelle. On a une responsabilité individuelle et collective dans ces choses. Si on ne se sent pas bien dans notre Église, j'ai ma part de responsabilité en tant que participant au repas de Christ. Si je dis, je trouve que le matin c'est un petit peu lourd, que je me lève, je hurle, je lève les bras au ciel, je chante. Si je viens ici le dimanche matin et que j'ai pas envie de prier, ça veut dire que je suis en train de déclarer, mes frères et sœurs, que Christ n'a absolument pas agi dans ma vie pendant la semaine. Il faut se faire très attention à ces choses, parce qu'on a une responsabilité devant toutes ces choses. Et la contemplation de Christ au quotidien, dans notre vie de tous les jours, elle a des effets moraux, des effets spirituels. On devient les témoins des changements dans notre vie. Et l'âme est transformé en profondeur. La vie est changée parce que les choses de Dieu, on va voir plus tard, deviennent naturelles. On marche en nouveauté de vie. En Romains 6, 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Si je suis en Christ, ma vie n'est plus la même qu'avant. Si je suis en Christ, on vient de le dire tout à l'heure, celui qui est en Christ est libre. Si vous me dites que vous avez les mêmes choses qui se trimballent dans votre vie depuis des années, ça veut dire que vous n'êtes pas en Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est parce qu'à un moment donné dans notre vie, on n'a pas su se mettre devant le Seigneur et lui dire « Seigneur, je te remets ces choses ». Je veux voir ma vie changer. Je sais que tu m'as pardonné, mais je veux voir ma vie changer. Si on vient à l'église et puis qu'on est content du tralala, c'est bien, le Seigneur nous laisse tel qu'on est. Il ne va pas nous embêter. Mais si on dit, je ne veux plus voir ma vie comme elle est maintenant, je veux que ça change. Seigneur, change ma vie. Vous allez voir, ça va changer. Tous ceux qui ont été baptisés devraient savoir que la sentence de mort est passée sur eux. Elle est passée. Puisque nous on dit, on a été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est l'image, je prends Jésus-Christ, je le serre sur mon cœur et on me met dans l'eau. On me noie. Quand on me relève, je suis une nouvelle personne. Je ressuscite en Christ. C'est ça l'image du baptême. C'est exactement ça. Et Romains 6, 4 nous le répète et nous l'affirme. La mort n'est pas le but. D'accord ? La mort n'est pas le but. Mais c'est un passage obligé pour que notre vie antérieure ne soit plus. On a tout laissé derrière, on est une nouvelle nature en Christ. Si on a les mêmes travers qu'avant, c'est qu'on n'est pas en Christ. Je suis désolé. Christ est capable de changer nos vies. J'espère que vous en êtes conscients. Christ est capable de nous faire vivre une vie nouvelle en lui. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas avoir de maladie. Je n'ai pas dit que vous n'aurez pas de tracas. J'ai dit qu'il va changer la façon de traverser ces choses. Vous aurez une vie nouvelle. Et ce qui est important de savoir, et on va aller en acte 2, 24, c'est que Christ n'est pas resté dans la mort. En acte 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il est ressuscité, il est monté à la droite de son Père. Et il nous fait également avec lui sortir de la mort pour que nous marchions en nouveauté de vie. On ne peut pas suivre, il est clair qu'on ne peut pas suivre l'exemple de Jésus. C'est impossible. Tel qu'il a été sur terre, c'est impossible. Cette vie sainte, cette vie sans péché, c'est impossible. Mais son œuvre nous permet de vivre autre chose que cette vie qu'on a connue avant. Elle nous permet d'avoir la capacité d'imiter Christ. Parce que Christ dit « Soyez mes imitateurs ». S'il le dit, c'est qu'on a cette capacité. Il nous introduit dans une nouvelle position, et on peut voir ça en Éphésiens, chapitre 1, de 19 à 23. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes et au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est le chef suprême de l'Église. Voilà comment doit être une Église. Christ au milieu de l'Église. Qu'est-ce qui arrive également? C'est qu'on devient enfant de lumière. En Éphésiens 5, 8, il est dit « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Encore une responsabilité. On doit marcher chacun comme des enfants de lumière. Paul, ici, il est en train de dire aux Éphésiens « Mais attendez, rappelez-vous de quelles conditions vous avez été tirés. Vous étiez des gens immoraux. Vous étiez des idolâtres. Vous viviez dans les ténèbres, privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, vous êtes lumière. » Il leur dit pas « Vous allez être lumière ». Il dit « En Christ, vous êtes lumière du Seigneur. » C'est le caractère qui nous a été donné à chacun. Et c'est un caractère divin, le fait de pouvoir être la lumière de Christ. Quand on réfléchit à ce qui vient d'être dit, ça veut dire qu'on doit refléter la lumière de Christ. En aucun cas, on ne peut produire cette lumière. En aucun cas. Humainement, c'est impossible. C'est impossible. Il dit « Vous êtes lumière », mais il ne dit pas « Vous êtes amour ». Parce que ce qui est de Dieu est lumière et se montre sans effort, telle qu'elle est. C'est-à-dire que, comme je viens de vous le dire, il n'y a rien que l'on puisse produire. Quelqu'un qui va essayer d'être bon, il va y être peut-être 2-3 jours, et d'un seul coup, les choses anciennes vont revenir. Quelqu'un qui est divinement changé par Christ, il va faire les choses, il va devenir, sa vie va être transformée. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il va faire les choses de Dieu naturellement. Et il fera les choses de Dieu naturellement. Il ne va plus les produire, il ne va plus les expliquer, il va les démontrer par son comportement. Et c'est important de comprendre ça. Et donc, par rapport à l'amour, l'amour requiert une énergie pour tout ce qu'on fait, pour tout ce qu'on dit. Et la source de cet amour, c'est Dieu lui-même. On peut voir ça en 1 Jean, chapitre 4, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voyez ? L'amour est de Dieu, est né de Dieu. C'est impossible nous-mêmes, humainement, d'aimer. Il faut que ces choses soient naturelles en nous. Et elles sont naturelles à partir du moment où Dieu, qui en est la source, est en nous. Pas autrement. C'est impossible. Et d'autant plus qu'il ne peut y avoir de mélange entre la lumière et les ténèbres. Soit vous avez une vie claire avec le Seigneur, ou soit vous avez une vie dans le monde. On ne peut pas concilier les deux, et surtout par amour. C'est très grave. Si on concilie ces choses-là par amour, en disant, ben voilà, je vais quand même y aller, je vais me mêler, je vais voir des choses infectes, je vais voir des choses par amour pour dire, ben peut-être que cette personne va être amenée à Christ, vous êtes en train de vous fourvoyer, hein, complètement. Parce que, en psaume 1.1, il est dit qu'à nous, il nous est recommandé de ne pas nous asseoir parmi les moqueurs. Il faut garder sa position de pureté. C'est impossible que la lumière soit associée aux ténèbres. Parce que c'est un peu comme dans partout. Vous avez des gens qui vont frapper une personne et vous avez deux personnes qui vont être à côté. Ils ne vont absolument pas frapper. Ils ne vont absolument pas toucher la personne qui est par terre. Ils ont exactement la même condamnation que les gens qui ont frappé. C'est ce qu'on appelle des violences en réunion. Parce qu'ils sont spectateurs et qu'ils n'ont pas bougé, ils sont associés aux gens qui ont frappé. Nous, qui, si on dit, ben voilà, on va dans les choses un peu olé olé, à partir du moment où on va dans ces choses et qu'on est mêlé à ces choses, il n'y a plus de différence. Comment vous allez expliquer aux gens que vous n'êtes pas comme eux ? Comment vous allez expliquer les choses de Dieu à partir du moment où les gens vous ont vu dans des choses abominables? C'est pour ça que souvent, il est recommandé aux parents d'expliquer aux enfants pourquoi on ne veut pas qu'ils aillent là, pourquoi on ne veut pas qu'ils aillent là, parce que des choses incroyables sont faites. Et pourtant, on parle à des enfants qui ne sont même pas encore en Christ. Alors nous qui sommes en Christ, comment on peut mêler les choses pures de Dieu avec des choses du monde, avec des choses infectes? Donc on est exhorté à marcher comme des enfants de lumière, portant le caractère de notre Père, et surtout produire le fruit. Et quand je dis produire, ce n'est pas nous qui produisons, c'est qu'en fin de compte, la parole de Dieu ayant fait son effet en nous, le fruit de l'Esprit va pousser. Et les choses de Dieu deviendront naturelles. Vous allez me poser la question, mais alors comment contempler la gloire de Dieu? Comment je fais? Il ne s'agit pas ici d'une contemplation physique, il ne s'agit pas d'une contemplation imaginaire. C'est simplement recevoir la révélation de Christ dans sa vie et le témoignage de la parole de Dieu dans notre cœur. Depuis des mois, enfin des semaines, je veux dire, il y a une question qui me trotte. Comment je considère Jésus-Christ dans ma vie? Je ne sais pas pourquoi, depuis plusieurs semaines, j'ai cette question. Et j'ai cette image de qu'est-ce que je fais de Jésus-Christ? Quelle image j'ai de Jésus-Christ? Est-ce que j'ai cette image du sauveur éloigné? Du sauveur qui a fait des choses incroyables? Du sauveur, un gars qui est mort sur une croix? Ou est-ce que j'ai l'image que d'un Christ qui est venu pour souffrir pour moi? Et à ce moment-là, est-ce que j'ai reçu cette chose sur mon cœur? Est-ce que la vérité de Christ est entrée sur mon cœur? Depuis des semaines, j'ai ces choses-là, je ne sais pas pourquoi, et je réfléchis beaucoup à ces choses-là. Est-ce que, quelle image, chacun, peut-être posez-vous la question, quelle image? Est-ce que j'ai l'image d'un sauveur éloigné, inaccessible, ou est-ce que j'ai vraiment la proximité de Christ dans ma vie? C'est le même pour l'Église. Si on a chacun l'image d'un Dieu éloigné, inaccessible, l'Église est morte. Mais si on a l'image d'un sauveur ensemble, uni par le même esprit, quand on va de prier ensemble pour le miracle d'une guérison, la guérison va venir. Parce que c'est l'esprit qui va commander la guérison. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas les paroles vaines de l'homme. C'est vraiment ce miracle dans la vie. Donc, la transformation est actuelle et progressive. En attendant, bien sûr, là je parle dans l'eschatologie, où on va chacun, où le Seigneur va revenir et nos corps vont être changés en corps incorruptibles. Et là, c'est immédiat. Lorsque le Seigneur va revenir, notre corps sera changé immédiatement en corps incorruptible. Et ça, je ne vais pas le lire. En Philippiens 3, 20 et 21, on peut lire ces choses. Donc, les chrétiens ne sont pas source de lumière. En aucun cas, on est capable de produire la lumière de Dieu. C'est impossible. On ne peut en être que le reflet. Et comment on peut être le reflet de Christ? C'est en contemplant Christ, au travers de sa parole, dans la prière, dans tout ce qui fait notre vie quotidienne. Et comme j'ai dit, ces réflexions vont être sans effort. Ces réflexions vont se faire d'une manière inconsciente. Pourquoi? Parce que ces choses deviendront naturelles dans notre vie. Par exemple, il y a l'histoire de Moïse. Moïse ne savait absolument pas, quand il est descendu de la montagne, que sa peau avait changé et que son visage rayonnait. Il ne le savait pas. Il avait approché Dieu, il était complètement transformé et il descendait, lui, comme l'homme qu'il était monté de la montagne. Et pourtant, son visage était rayonnant parce que les choses de Dieu étaient devenues naturelles en lui. Étienne, est-ce qu'il avait conscience qui ressemblait à un ange? Lui, absolument pas. Il n'y a que ceux qui étaient assis dans le temple, les Sanhédrins, qui en étaient les témoins involontaires. Ils ont assisté à ces choses-là. Vous lirez ça en Actes 6, 15. La contemplation de Christ, pour Paul, était nécessaire aussi bien pour lui que pour les Corinthiens. Mais il dit « nous ». Il dit pas « je », il dit « nous ». C'est-à-dire qu'il englobait tout le monde. Il ne s'agit pas d'un « nous » comme prédicateur, d'un « nous » comme évangéliste, mais c'est une expression qui s'applique à tous. Nous sommes tous inclus dans ces choses. Il n'y a personne plus que d'autres. Il n'y a pas les anciens et le reste de l'Église. Parce que je vais vous le redire, vous êtes chacun ancien. J'espère que vous êtes conscient que vous êtes ancien. Vous êtes ancien de votre famille. Vous êtes ancien de vos amis. Vous êtes ancien de vos voisins. Et si vous lisez Tite et Timothée, vous allez voir les responsabilités que vous avez. Vous êtes ancien. Même si vous n'en avez pas conscience, vous êtes ancien de votre épouse, vous êtes ancien de tout le monde, de tous ceux qui vous entourent. Parce que vous êtes appelé à parler de la parole de Dieu. Vous êtes appelé à parler de Christ autour de vous. Vous êtes appelé à refléter Christ. C'est votre responsabilité. C'est pas nous. C'est pas notre responsabilité en tant qu'anciens. Parce qu'au quotidien, c'est vous qui êtes dans le monde. Selon donc que la gravure du nom de Christ est inscrite sur notre cœur, la lettre que nous constituons chacun sera plus ou moins explicite. C'est-à-dire, plus Christ aura fait son œuvre dans nos cœurs, plus le témoignage sera puissant. Et ça, je répète que ce n'est pas la responsabilité des anciens, ce n'est pas les responsabilités des uns individuellement, c'est une responsabilité individuelle. On a chacun une responsabilité individuelle devant ces choses. Et la preuve, c'est que l'apôtre ne dit pas « vous êtes les lettres de Christ » en disant que ben, « vous, chacun », mais il dit « vous êtes la lettre unique ». Vous êtes la lettre. Un chrétien isolé ne peut représenter cette lettre. Les individus les plus vieux, les plus saints, les plus fidèles ne peuvent former chacun pour son compte cette lettre. C'est le témoignage collectif, l'Église complète et cohérent des membres de Christ, du corps de Christ, qui montrera Jésus-Christ au milieu des hommes. Donc ça veut dire que si je viens, si je demande vraiment au Seigneur, « Seigneur, change ma vie, je veux que ça change dans ma vie, je ne veux plus avoir ces travers. » Le Seigneur fera son œuvre et vous allez apporter à vous seul un témoignage. Et chacun ensemble, on amènera un témoignage puissant. Parce que dans l'Église vont disparaître les divisions, vont disparaître les critiques, vont disparaître les états d'âme. Parce qu'on sera unis réellement chacun, vous voyez. Si on prenait un fil, vous voyez, un jour, on va dérouler, il y a cette image que j'avais lue, c'est un pasteur qui avait pris une grosse boule de laine, puis il avait commencé, il avait donné la boule de laine, puis il a fait tout le tour, puis il a donné, vous tenez chacun la laine. Tout le monde, à la fin, tenait le morceau de laine. Et il avait dit simplement cette chose. Voilà l'Esprit de Dieu. Voilà. Chacun, on est relié par le même esprit, on tient le même esprit dans notre cœur, on sert le même esprit, c'est celui de Dieu. Donc, c'est un témoignage collectif de l'œuvre de Christ et c'est la mission de l'Église sur la terre. Maintenant, il appartient, c'est la conclusion, à chacun d'apporter un témoignage. C'est le témoignage local. Est-ce que le témoignage de l'Église, ici, est-ce qu'elle est droite aux yeux des Hasbroucois? Est-ce qu'elle est lisible? Est-ce qu'on la sent? Est-ce que je suis responsable de cette visibilité, de cette lecture simple par mon comportement, par tout ce que je suis? Ou alors, est-ce qu'elle ressemble à ces pierres tombales? Vous savez, quand vous allez dans certains cimetières, vous découvrez une tombe. Alors, il y a encore le nom d'inscrit, mais le nom est patiné par le temps, averdi. On voit presque plus rien. On distingue encore quelque chose, mais la lecture commence à devenir impossible. Est-ce que c'est ça, la lettre, notre lettre ici? Une communauté, par exemple comme nous, qui conservons un enseignement pur, un enseignement profond, et même spirituellement élevé, n'aura le caractère de Christ bien visible que si chacun, je dis chacun, on met en pratique la parole de Dieu dans nos vies. C'est la seule façon. C'est un peu ce que je vous disais, il y a beaucoup de gens qui sont tracassés par la belle musique, par l'envolée des louanges, par tous les tralala. Quand ils entendent la parole de Dieu, quand ils entendent clairement l'Esprit de Dieu, ils se lèvent, ils s'en vont, ils disent « Ah, qu'est-ce que c'était bien, la présentation était géniale !» Et qu'est-ce qu'ils ont fait de la parole de Christ qui a été donnée quand l'Esprit a parlé? Rien. S'il en est ainsi, la lumière, l'Église va briller au milieu des ténèbres. Il peut y avoir toutes les choses les pires. On peut avoir faire de la magie blanche autour de nous, on peut faire ce qu'on veut. Cette Église sera un témoignage puissant et dérangera les autorités maléfiques qui sont autour de nous. Et Paul, en Philippiens 2,15, il dit « Vous brillez comme des flambeaux dans le monde ». Le rassemblement d'Antioche est un bel exemple. En Actes 11, 25-26, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils surent réunir aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Parce que l'enseignement était fait, parce que les gens écoutaient et prenaient comme un trésor la parole de Dieu, tout ce qui avait été annoncé. Il faut retenir chacun cette précieuse vérité. Contempler par la foi Christ, c'est plus beau des cadeaux qu'on peut faire à celui qui est mort pour nous. Et c'est surtout quelque chose de puissant, parce que Christ va remplir notre cœur. Il va faire bouillonner notre bouche de bonnes paroles. Après avoir rendu l'Esprit Saint, après qu'il ait rendu un témoignage intérieur, je vais lire en 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21-22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Après avoir donc fait ce témoignage intérieur, il nous donnera la puissance d'un témoignage extérieur par nos vies, nos actes et nos paroles. Les choses de Dieu vont devenir naturelles. On n'aura plus besoin d'artifices dans nos églises. On aura posé le fondement de Christ, qui doit être l'âme de l'Église. Je vous rappelle que quand vous prenez les 7 lettres aux églises, la menace est laquelle ? Je viendrai et j'ôterai le chandelier au milieu de vous. Le chandelier, c'est l'Esprit de Dieu. Il prend, il l'ôte. On devient une église morte. Donc on a chacun une responsabilité dans ces choses. Se laisser pénétrer par vraiment l'Esprit de Dieu. Comprendre la simplicité de la parole. Ne pas faire entrer des choses du monde dans l'Église et simplement faire entrer les choses simples de Christ. C'est à ce moment-là qu'on aura la puissance de l'Esprit. Vous savez que vous êtes capable, chacun, de reprendre, d'exhorter, de guérir, de faire discerner avec l'Esprit de Dieu. C'est ce qui vous attend, chacun. Et c'est ce qui attend l'Église, une Église puissante, une Église indétrônable, parce qu'elle est fondée sur le roc. Voilà, je vais en terminer là, on va prier. Seigneur, je te rends grâce pour ton Esprit qui est en nous, Seigneur. Tu nous l'as donné lorsque Christ est monté près du Père. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Seigneur, tu es en nous par ton Esprit. Seigneur, je prie pour cela pour moi et pour mes frères, que vraiment l'Esprit prenne toute sa place dans nos cœurs. Seigneur, que nous puissions déborder de l'Esprit, que nous puissions toucher par notre comportement et non nos paroles ou nos gestes, mais que nous puissions toucher ceux qui nous entourent simplement par la paix qui est en nous, la joie qui est en nous, ce rayonnement de Christ qui transparaîtra de nous. Seigneur, fais ton œuvre avec puissance dans le cœur de chacun, Seigneur, par le nom de Jésus. Amen.